Bonjour à tous et à toutes. Villefranche, 1937, du local à l'universel, 3e. Une émission mensuelle de CFM présentée par l'association Villefranche, 1937, avec aujourd'hui dans le studio François Jeannaudet, Patrick Jean-Georges, Patrice Le Sueur et Joël Cos. À la technique, Boumediene Bridget. Dans les deux précédentes émissions, nous avons situé Villefranche dans cette année 1937 qui est charnière entre le Front populaire et les accords de Munich et pendant la guerre civile en Espagne. Le monde ressent une menace qui plane et qu'il va falloir amortir. Nous avons présenté les chamailleries municipales autour de la poste, mais aussi la volonté de se réunir dans un comité des fêtes permanent et aussi autour du traditionnel grail occitan qui se renforce à Villefranche, le Félibrige. Mais le syndicat d'initiative est l'instrument le plus solide pour fédérer les Villefranchois. Je vous le présenterai en détail. Il a servi de point d'appui pour développer la notoriété de la perle du Rouergue en utilisant le levier de l'exposition universelle. François Jeannaudet vous en parlera longuement. François, pendant ce temps, un coiffeur villefranchois, Joseph Benazé, Patrice, s'active pour raviver la langue occitane. Patrice Le Sueur nous fera le récit de son action. Ces histoires seront parsemées d'interventions de Patrick Jean-Georges ainsi que de respirations musicales. Et tout de suite, François Jeannaudet va nous faire visiter l'exposition universelle. François, à toi la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Présenter l'exposition internationale de 1937 en très peu de temps est une véritable gageure. Pour respecter les 5 minutes imparties, j'évoquerai d'abord le contexte international et national de l'époque avant de détailler l'ambition et la réalisation de cet événement monumental. En 1937, le monde est au bord du gouffre. Il est intéressant de comparer ce contexte international de 1937 à l'actuel contexte. À l'époque, l'Europe n'existe pas en tant qu'entité politique. Elle est dominée par des empires coloniaux qui se partagent l'Afrique et l'Asie. Les idéologies autoritaires triomphent. Le fascisme s'installe en Allemagne, en Italie et en Espagne, tandis que le communisme s'enracine en ce qui deviendra l'Union soviétique. Les puissances dominantes que nous connaissons aujourd'hui sont encore en retrait. Les États-Unis regardent l'Europe comme un phare, artistique et technologique, tandis que la Chine, morcelée et colonisée, est inexistante dans le monde. Les outils de la régulation mondiale apparaîtront plus tard. Les grandes organisations internationales comme l'ONU ou l'OMC n'existent pas encore. Les moyens de communication sont alors rudimentaires. D'où la difficulté de percevoir dans nos provinces ce qui se passe dans un monde plus lointain. Le contexte national est littéralement explosif. Un événement syndicaliste précis que je vais vous raconter, survenu le 11 février 1937, se rapportant au chantier de construction de la Grande Exposition, en est l'illustration. L'ambition du projet est alors confrontée à une réalisation chaotique. Ce jour-là, jour de meeting, les travaux n'ont pas suffisamment avancé pour garantir l'ouverture prévue le 1er mai. L'ouverture de l'exposition le 1er mai est une bataille des ouvriers et du Front populaire contre le fascisme. Nous la gagnerons. Telle est l'inscription figurant sur la tribune érigée à l'occasion de ce meeting. À cette tribune, le camarade syndicaliste Arrachard encourage les ouvriers à intensifier leurs efforts. Il affirme qu'ainsi, les fascismes seront confondus. Il est acclamé. Il poursuit en affirmant la nécessité de travailler les samedis et dimanches pour sauver la renommée du Front populaire. Il est hué. Enfin, Léon Blum lui-même intervenant, se montre incapable d'entraîner les équipes à l'effort nécessaire. La réunion s'achève dans la confusion. Un retard de l'exposition serait la victoire des fascismes, conclut-il. La présentation de l'exposition que je propose ici reprend, en la résumant, l'adresse aux visiteurs que l'on pouvait lire dans son guide officiel. Je cite « La curiosité vous a poussé, visiteurs, à connaître l'exposition internationale Paris 1937, Arts et Techniques dans la vie moderne. Ce titre paraît peut-être long, mais il résume son programme en la plus courte des formules. Vous y constaterez la fabuleuse puissance de jeunesse recelée ici, en examinant tout à la fois nos efforts à nous, Français, et ceux des 42 États ayant répondu au cordial appel de la France. Quelques-uns des buts que se propose l'exposition sont dits par son commissaire général, M. Edmond Labbé, en déclarant « Elle s'efforcera de montrer que le souci de l'art dans le détail de l'existence journalière peut procurer à chacun, quelle que soit sa condition sociale, une vie plus douce. » Elle montrera aussi qu'aucune incompatibilité existe entre le beau et l'utile, que l'art et les techniques doivent être indissolublement liés. Voici pour le thème. Mais qu'en est-il du cadre ? L'architecte en chef, M. Jacques Gruber, s'est écarté résolument de ce qu'on peut appeler le style exposition. Son plan est d'une magistrale ampleur. Les grands halls habituels, sans caractère architectural, sont remplacés par des pavillons de synthèse consacrés chacun à une nation ou à un métier. Des présentations vivantes, éducatives, y seront données par groupements corporatifs. L'exposition est une véritable ville de 3,5 km de longueur à laquelle s'appliquent des principes d'urbanisme. Plus de 100 groupes d'architectes ont su réaliser ce travail avec une grande diversité et respecter l'harmonie et l'équilibre voulu, suivant les directives générales données par l'architecte en chef, M. Jacques Weber. Il est ainsi affirmé nettement « Nous voulons donner à notre exposition une allure de démonstration ». Pour donner un aperçu du gigantisme de l'opération engagée, en voici une description rapide. L'exposition internationale occupe une superficie de plus de 100 hectares. Le développement de son enceinte principale est de 7,5 km. Elle comprend, outre le Grand Palais, le Nouveau Palais du Trocadéro et les musées d'art moderne, environ 300 palais et pavillons à l'intérieur de l'enceinte principale et dans les annexes. Au Musée d'art moderne se tient une exposition des chefs-d'œuvre de l'art français. Les sections étrangères où se tiennent les pavillons des pays invités sont groupées en trois lieux, dans les jardins du Trocadéro, sur les rives de la Seine et au Champ de Mars. La section de la France d'outre-mer est dans l'île des Cygnes. Les bords de Seine et la rive gauche et les terrains sont adjacents, sont occupés entre autres par le centre régional qui nous intéressera plus particulièrement dans la deuxième partie de cette évocation, synthèse des différents types d'architecture rencontrés dans les terroirs de nos provinces. Le centre des métiers qui offre un fort intéressant groupement d'îlots, la section des jardins. Le Champ de Mars est consacré à la diffusion artistique et technique, et se termine par le Palais de l'électricité, encore dénommé Palais de la lumière. Enfin, l'esplanade des Invalides est réservée en majeure partie au transport.
Lui, bravo François pour cette synthèse. C'est un immense travail, je le vois bien. Mais on va visiter l'exposition, on va revenir sur Terre avec Georgius qui va nous la faire visiter en chanson. C'est une chanson évidemment de 1937.
C'est moi le guide de l'exposition, je m'appelle Daniel Pinoche. Suivez-moi les grands et les mioches, je suis las des explications. À gauche, voilà le pavillon grec, l'aquarium et ses poissons rouges. Remarquez qu'il n'y en a pas un qui bouge, on vient de les peindre, ils sont pas secs. Là, les pavillons étrangers, l'italien et l'anglais qui louchent, le russe et l'allemand à côté. Conclusion, les extrêmes se touchent. À droite, la Bretagne, messieurs. Ses bateaux, son port et ses halles. Le poisson vient de la place Pigalle. C'est là que le hareng pousse le mieux. Pour visiter l'exposition avec ses nombreux pavillons. Demandez pipi, demandez pipi, demandez Daniel Pinoche. Ses renseignements confidentiels en ont fait le guide officiel. Demandez pipi, demandez pipi, demandez Pinoche, Daniel. Nous sommes ici au pavillon régionaux, messieurs dames. Venez en face de vous, vous avez le Périgord, bien renommé pour ses truffes. Entrez, monsieur, entrez, il y a des moments qu'on aime se sentir en famille. Et de l'autre côté, vous avez le Limousin, spécialisé dans la fabrique des limousines. C'est une calembour, elle est bonne. Oui, ils n'ont rien compris, allez, ça va. Suivez le guide, par ici, messieurs dames. Allons faire un tour au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Ce climat me colle la pépille, y'en a pas un qui paye un boc. Là, la Guadeloupe, l'Empire du Levant, Pico garantie sur facture. C'est moi que je maquille leur figure, tous les matins en arrivant. Pour les ceux qui veulent s'éduquer, voilà le musée des arts plastiques, le moderne rejoint l'antiquité. Y'a là des tableaux artistiques, Adonis jouant du biniou, Vénus reprisant des chaussettes, Hercule faisant de la patinette, Apollon se rasant le poil du cou, pour visiter l'exposition, avec ses nombreux pavillons. Demandez pipi, demandez pipi, demandez Daniel Pinoche, ses renseignements confidentiels en ont fait le guide officiel. Demandez pipi, demandez pipi, demandez Pinoche, Daniel. Et nous arrivons au stand de la publicité. Vous voyez ces phrases inscrites sur les murs, mesdames et messieurs, c'est des slogans. Vous n'avez qu'à lire, d'ailleurs, vous comprendrez. Pour un meuble qui doit durer, une seule adresse, le Mont-de-Piété. Oh, oh, il est bon, ça. La crème de belle tétine vous raffermira la poitrine. Oh, qu'est-ce qu'ils vont trouver, je vous jure, alors. Un chapeau des galeries Barbès, c'est le plus fort des fortifiants. Oh, il est bon, celui-là, alors. Allez, par ici, suivez le guide, monsieur-là. Par ici. Si qu'on irait aux attractions, voilà le pavillon de la lumière. Ceux qui aiment jouer aux pinces derrière s'y arrêtent pas, ils ont raison. Pour les ceux qui ont de l'instruction, là les découvertes scientifiques, la pâte à ramollir les briques, les tricots sans bras pour hommes troncs. Ici, la maison du travail, tous les employés y roupillent. Et voilà ce qu'il faut voir en détail, le planétarium où scintille Saturne, le soleil, les oursons et la lune, ne vous en déplaise. Non, pardon, montez sur une chaise, c'est une dame qui a pas de pantalon. Pour visiter l'exposition, avec ses nombreux pavillons, demandez pipi, demandez pipi, demandez Daniel Pinoche, ses renseignements confidentiels, en ont fait le guide officiel. Demandez pipi, demandez pipi, demandez Pinoche, Daniel.
Voilà, c'était une autre façon de la présenter de façon synthétique. Mais on va voir, comme tu l'as annoncé tout à l'heure, présenter la présence de Villefranche et du Rouergue, l'exposition qui a été extrêmement importante pour établir la notoriété de Villefranche, bien sûr, mais aussi du Rouergue, qui se vérifiera par la suite. Alors, tu as quelques éléments, François, tu peux nous les donner ?
Eh bien, tout à fait d'accord. Replongeons-nous aujourd'hui dans cette année 1937, en province cette fois-ci. À travers les colonnes du journal Le Narrateur, les lecteurs ont pu suivre l'aventure de l'Aveyron dans ce grand rendez-vous mondial. L'exposition est un chantier colossal qui transforme Paris. Si l'événement se veut une vitrine de la modernité pour nos compatriotes aveyronnais, l'enjeu est ailleurs. Il s'agit de faire, ni plus ni moins, rayonner la petite patrie au milieu des géants. Les débuts hésitent entre enthousiasme et frustration. Dès le printemps 1937, l'impatience grimpe. On annonce des merveilles, mais le chantier est complexe. Un nuage vient assombrir le tableau. Le centre régional qui doit regrouper les provinces françaises accuse un retard considérable. L'une des causes principales, on l'a déjà dit, en est le mouvement des ouvriers à qui le Front populaire vient d'accorder la semaine des 40 heures et qui refusent ici les efforts supplémentaires qui leur sont demandés pour tenir les délais. Meetings houleux et grèves n'arrangent pas la situation. En juillet, le ton monte. L'Union des présidents de région dénonce l'apathie et l'incohérence des services administratifs. Alors que les pavillons des grandes nations autoritaires, comme l'Allemagne ou l'URSS, sont déjà ouverts, la France semble manquer son propre rendez-vous. Le mouvement communiste, fort à l'époque, va jusqu'à oser prétendre que le défaut démocratique de notre organisation défaillante est en fait une victoire sur le fascisme. Plus largement, cette situation est vécue comme une humiliation pour la dignité nationale. Finalement, le 5 août 1937, le pavillon Languedoc-Méditerranée, auquel est rattaché l'Aveyron, est inauguré en présence de ministres et de personnalités comme Paul Valéry. L'Aveyron y partage l'espace avec l'Aude, le Gard, l'Hérault et la Lozère. Le pavillon du Languedoc-Méditerranéen offre une vitrine au génie rouergat. Le pavillon lui-même est une réussite architecturale. mêlant lignes modernes et évocations classiques. En matière d'art et de symbolisme, la façade arbore des frises représentant la mer, la plaine et la montagne. À l'entrée, des motifs en aluminium figurent les armoiries des chefs-lieux, dont celle de Rodez. Bien souligné par le narrateur, l'Aveyron y est à l'honneur. À l'intérieur, on célèbre les richesses locales. On y trouve des fresques évoquant, entre autres, l'industrie du Roquefort, une grande scène de pêche venue de Rodez et des œuvres d'art signées Denis Puech ou Louis Bertrand. La quinzaine aveyronnaise, débutante en octobre, est un moment fort de l'exposition. Le pavillon vibre alors au son des cabretaillirs, Pradal et Bonal et des concerts de chants populaires. Le succès est tel que le président de la région demande la prolongation de l'exposition aveyronnaise jusqu'à la clôture officielle. Cette présence à Paris fut une démonstration de puissance économique. Au-delà du folklore, l'exposition sert à démontrer que l'Aveyron est un département d'une vitalité moderne. En matière agricole, le département rappelle qu'il est premier pour la production de pommes de terre et l'élevage porcin. L'industrie est mise en avant. Millau brille par sa ganterie, exportant pour 70 millions de francs de chiffre d'affaires. Le Roquefort, lui, pèse 250 millions de francs, dont une large part à l'exportation vers les Amériques et l'Europe centrale. La fameuse solidarité aveyronnaise est mise en exergue. Le journal souligne la force des émigrés. 420 000 Aveyronnais vivant hors du département soutiennent indéfectiblement leur terre d'origine. En conclusion, les articles du narrateur évoquent un bilan contrasté. Quel souvenir garder de 1937 ? Pour certains visiteurs Huerga, l'exposition globale déçoit par son côté foire à la publicité et ses cubes de ciment qui cachent les monuments de Paris. Mais pour l'Aveyron, le bilan est positif. Malgré les retards initiaux, la province a su montrer son vrai visage, celui d'une terre de tradition, mais aussi de progrès scientifique et économique. La visite solennelle du cardinal Verdier le 23 octobre, accueillie par une foule compacte, vient sceller ce succès. Comme l'écrivait le journaliste François Dupas, la chrysalide est devenue papillon. L'Aveyron n'a peut-être pas eu son propre pavillon, au grand regret de certains, mais il a prouvé sa puissante individualité aux yeux du monde.
Merci, mais il faut remarquer que c'est le Conseil général de l'Aveyron et les SSI du département qui ont initié cette présence importante, et en particulier, j'en parlais tout à l'heure, François Lagarde. Et il faut dire que le cardinal Verdier était en même temps archevêque de Paris. Donc, pour en finir avec l'exposition, je voudrais vous faire entendre un poème de Paul Fort, que Patrick Jean-Georges a préparé et va nous lire.
Lourons la plus noble conquête que l'homme diable ait jamais faite et qui, de longs bras musicaux, l'étreint, ce poulpe, la radio. Tout l'univers est ficelé d'ondes et d'ondes, encore d'ondes. À peine viens-je de parler au micro, que du cher vieux monde j'ai fait le tour 907 fois, sinon ma personne, ma voix. Que dis-je, sinon ma personne ? Vienne, l'expo 38, la bonne. Mon nez surgit par millions, et viva la télévision.
Paul Fort était visionnaire. Voilà, donc l'exposition universelle, ça a été aussi... je vous l'avais déjà dit, la possibilité aux artistes américains, étrangers, de jazz essentiellement, d'être invités à Paris, et les grands cabarets parisiens en ont profité, mais aussi Hugues Panassier. Hugues Panassier en a profité pour les enregistrer et à cette occasion créer le premier label de jazz français, typiquement français, Swing, et je vais vous passer Saint-Louis Blues par Bessie Smith, et voilà, pour illustrer le côté jazz.
Thank you.
Bessie Smith, donc, interprétait St. Louis Blues en 1937. Et je voudrais vous parler un peu du début de l'office de tourisme à Villefranche. Et il a fallu quand même une dizaine d'années pour amortir les désastres de la Grande Guerre. L'agriculture et l'artisanat connurent une nouvelle prospérité dans le Villefranchois dans la fin des années 20, début des années 30. Et les industriels et les commerçants sentirent la nécessité de créer une fédération sous l'impulsion d'un remarquable entrepreneur local, François Lagarde. Cette association reprit l'idée des Amis de Villefranche qui avaient jeté l'éponge pour créer un syndicat d'initiative. Et finalement, ce syndicat naissait en 1927. 1927, il faut signaler que l'année prochaine sera le 100e anniversaire de la naissance de ce syndicat d'initiative. C'est donc en 1927, dans le but d'étudier, alors ça je cite, d'étudier et de réaliser toute mesure propre à augmenter la prospérité de Villefranche et du Barouergue, notamment en faisant connaître les curiosités naturelles, archéologiques et artistiques, et en rendant aux touristes le séjour à Villefranche aussi agréable que possible. C'est un bon programme et le premier conseil d'administration statutaire donc nomma François Lagarde à la présidence. Les jalons étaient posés et ce syndicat d'initiative n'a de cesse de réaliser ses objectifs signalés dans les statuts. Pour cela, il va utiliser tous les moyens de communication à sa disposition. Il va réclamer en priorité au département et à l'État un entretien des routes afin de faire venir les touristes le plus confortablement possible. Et il va encourager l'accueil par la création et la modernisation des hôtels et surtout en lançant un appel populaire à la population pour ménager quelques chambres d'accueil dans leur logement, chambres inoccupées. François Lagarde, qui était industriel, exportateur de champignons secs, prend le relais de son père, Henri, qui était en même temps restaurateur. Son activité sans répit en fait de lui un conseiller national pour le commerce extérieur et en 1932, il préside le banquet traditionnel des Villefranchois de Paris. Son discours, publié par le narrateur, est un véritable manifeste pour le développement de Villefranche. Le syndicat d'initiative organise le premier grand reportage depuis l'Hôtel Moderne pour présenter Villefranche au niveau national et il assure l'accueil de la caravane des géographes. En 1937, en avril 1937, François Lagarde, qui est déjà conseiller national pour le commerce extérieur, recevra la Légion d'honneur. Et je vais vous lire l'article que publie le narrateur à cette occasion. François Lagarde, avec un dévouement sans bornes et un désintéressement des plus absolus, s'efforce d'ailleurs avec succès de faire de notre région un centre de tourisme des plus fréquentés. Sans les énumérer d'une façon complète, nous vous permettrons de rappeler quelques-uns de ses travaux. N'est-ce pas lui, par deux fois, le promoteur de ce brillant radioreportage qui a fait connaître Villefranche à la France entière et à l'étranger ? Au point de vue géographique, historique, économique, artistique, radio-reportage si parfait qu'il a eu les honneurs d'un enregistrement sur disque pour les écoles. N'est-ce pas lui le créateur du théâtre en plein air sur notre merveilleuse place Notre-Dame ? N'est-ce pas lui l'organisateur de cette belle randonnée à travers tout le département d'une vingtaine de rédacteurs de grands journaux de Paris ? N'est-ce pas lui l'instigateur du film « Chez nous, en Rouergue » qui en ce moment fait le tour du monde ? Film documentaire si beau qu'il fut envoyé comme modèle du genre à l'exposition cinématographique de Venise. »
Voilà donc un peu la personnalité de François Lagarde, dont une plaque avait été déposée à l'occasion du 50e anniversaire de l'Office de tourisme, et ce serait une bonne occasion, le 100e anniversaire, de la remettre en place, puisqu'elle avait été déplacée lorsqu'on a changé le bâtiment de place. Mais pendant que François Lagarde s'occupe de faire venir le tourisme, on continue à s'appeler, à s'amuser, et Charles Trenet va nous y aider.
Qu'on respire ces fleurs bleues, un regard qui vous attire ces fleurs bleues, des mots difficiles à dire ces fleurs bleues, ces fleurs bleues, un rendez-vous en automne, ces fleurs bleues, une chanson qu'on fredonne, ces fleurs bleues, un jeune amour qui se donne, de grands yeux qui s'abandonnent, ces fleurs bleues, on envoie des pneumatiques à fleurs bleues, les dimanches sont poétiques, tout fleurs bleues. On se met du cosmétique dans les cheveux, oui, parbleu, pour fleurs bleues. On jure que l'on s'adore tous les deux, et l'on jurerait encore si fleurs bleues ne vous plaquaient ça, ces vaches, pour un dragon, un moustache, morbleu. Elle n'est pas revenue, mystérieux, oui, a jamais disparu sans adieu. Et je suis seul dans la rue, larmes aux yeux, larmes aux yeux, larmes aux yeux. Mais soudain le cœur bat vite, oh mon Dieu, la voilà, c'est la petite, l'air joyeux. Non, ce n'est pas elle, quel drame, c'est une assez grosse dame, pas fleur bleue. Alors le printemps, l'automne, sans fleur bleue, coule des jours monotones, ciel pluvieux. Et cet air que je ferai donne sans fleur bleue devient vieux, ennuyeux. Pourtant ne soyons pas tristes pour fleurs bleues. Jeanne est là toute une liste, c'est bien mieux. Amourette passagère, joie peine de cœur légère, oui, fleurs bleues. Un doux parfum qu'on respire, c'est fleurs bleues. Un regard qui vous attire, c'est fleurs bleues. Des mots difficiles à dire, c'est fleurs bleues. C'est fleurs bleues, c'est fleurs bleues. Un rendez-vous en automne, c'est fleurs bleues. Une chanson qu'on fredonne, c'est fleurs bleues. Un jeune amour qui se donne, de grands yeux qui s'abandonnent, c'est fleurs bleues.
Merci Charles Trenet qui nous entraînait et qui entraînait à l'époque toute la jeune génération dans les prés. Donc François Lagarde, qui vient d'avoir la Légion d'honneur, continuera son activité. Évidemment, c'est au début 1937 qu'il est décoré, et il va être nommé président de l'Office de tourisme départemental. Et c'est à ce titre qu'il va encourager tous les offices de tourisme à se fixer sur l'exposition universelle. Tous les travaux dont en parlait François tout à l'heure seront proposés par l'Office de tourisme départemental, qui va recruter le financement dans chacun des offices de tourisme locaux et aussi, bien sûr, dans le conseil général et dans les conseils municipaux. C'est ce qui va permettre d'avoir des quantités de prospectus vantant le département de l'Aveyron, mettre en évidence une exposition sur le département et la projection de ces films. Voilà, donc, je n'en parlerai pas davantage de cet office de tourisme donc, qui a perduré jusque maintenant, hein, mais il faut dire qu'il a pris un grand essor à partir de 1937, avec à sa tête François Lagarde, qui y restait jusqu'en 1945. Mais pour que vous continuez à présenter Villefranche et sa notoriété, il faut savoir que Marie-Claire Géniaud a sorti un ouvrage en 1937 présentant l'ensemble du Languedoc, avec un chapitre tout particulier sur Villefranche. Patrick Jean-Georges en avait lu une première partie, il y a deux émissions. Il va nous continuer cet article-là, ce livre-là.
C'est de la galerie des cloches au carillon célèbre dans toute la région que Villefranche offre une curieuse vue cavalière. La ville se découvre au centre de son étroite vallée d'une intense verdeur, entourée par le cirque de ses montagnes boisées et veloutées et de ses gracieux coteaux hérissés de clairs pigeonniers. La place, avec les couverts en ogive qui l'entourent, ses logis renaissance à beaumenaux finement moulurés, ses toits de tuiles romaines surmontés de hauts clochetons en été noir, ses tourelles carrées et ses cheminées monumentales flanquées sur les pignons comme des poivrières, constituent un des ensembles les plus surprenants de tout le Languedoc. Le tracé rigoureusement géométrique de la ville est frappant. Cette bastide, créée en 1256, fut construite sur le type général imposé par la volonté de son fondateur, Alphonse de Poitiers, qui s'était donné pour tâche de restaurer le Midi dévasté par la croisade des Francimans et d'attacher à la France le cœur de ses habitants. Son nom de Villefranche lui vint de la charte de coutumes et des privilèges qui lui furent octroyés au moment de sa fondation. Élevé par Philippe III le Hardi au rang des bonnes villes du royaume, elle devint le siège de la sénéchaussée du Rouergue. Il semble qu'à l'époque de la Renaissance, Villefranche dut connaître une grande prospérité. Ses plus riches habitants, pris d'émulation, remanièrent leurs logis renfrognés en les agrémentant de vastes baies et de lanternons. Le plus remarquable, la plus remarquable et la mieux conservée de ces demeures, qui, hélas, connurent dans des temps plus modernes de fâcheux avatars, est sur la place Notre-Dame, la maison Armand, construite comme le château de Graves et de Bournazel par Guillaume Lissorgue. Cette ville, conçue par une volonté unique, sait unir la plus forte discipline à la plus amusante fantaisie lorsque l'on considère l'infinie variété de ses constructions aux encorbellements, tourelles, clochetons, toits renflés en forme de bourguignottes, de capuchons ou de corbeilles, dont les tuiles rappellent la couleur savoureuse des pêches de vigne.
Merci Patrick. Claire Géniaud nous fait un petit cours d'histoire, mais en même temps, en y mêlant beaucoup de littérature et de poésie. Il y a un autre poète, Villefranchois, de la même époque, qui s'est exprimé, lui, en occitan, et c'est de lui, Joseph Benazet, que Auguste Benazet, que Patrice Le Sueur va nous parler. À toi, Patrice.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors en fait, Auguste Benazet, qui a été un peu oublié pendant un certain nombre de décennies, est un personnage qui a joué un rôle de premier plan dans les activités occitanes et leur renouveau en 1937. En fait, c'est le grand écrivain occitan de Villefranche, le seul. Il y a des écrivains occitans autour, mais à Villefranche même, c'est le plus grand. En fait, il apporte la tradition occitane de la ville et non des campagnes comme la plupart des auteurs d'oc anciens. En fait, c'est un pur villefranchois. Il est né à Villefranche, au domicile paternel, qui se situait rue du Jardin Royal, c'est-à-dire près de la sous-préfecture, le 2 avril 1868. En 1937, il a donc 69 ans. Son père, François Benazet, tenait un café-restaurant à cette adresse. En fait, il apprend le métier de coiffeur dans un salon situé rue de la Fontaine, c'est-à-dire l'actuelle rue du Sergent-Bory. Il partira à Paris pour achever son apprentissage. Et il fut accueilli par un coiffeur de Montmartre, au numéro 1 de la rue d'Ancourt, salon qui était fréquenté par le grand chancelier Aristide Bruant, avec lequel il se lia d'amitié. Amputé d'un pied suite à un accident, il rentre à Villefranche en 1892, l'année où vient de paraître « Dol Brezzo la tumba » de Bessou. Désireux d'écrire depuis son séjour à Montmartre, il décide alors qu'il utilisera la langue occitane. À son retour, il ouvre son salon de coiffeur, rue de la République, un endroit où il y a encore une plaque et où il vendait également des articles de pêche puisqu'on est tout près de l'Aveyron. Et quelques années plus tard, en 1898, il rédigera le fameux hymne local, l'Obilo Francato.
Caimi plo, ta sentiro de vigno, tum biel cluquie, sun gioi al carion. Ai mi tobe, ta scorreio del legno, ton se scubert, amai ta bielio fun. Naustri sem fier de garda la memoria de l'ancien tens que festum ramainun los monuments de ton antico gloria in que rometu in estelo ton front
obilo front com un pois Bibot nos siempre es, per te conta sui parere, qui sios a perro de huere, o mio franco mon pois.
Voilà, donc vous avez entendu un bout de ce morceau, qui est en fait un chant très long. Et ça n'est que le début de l'œuvre de Benazet, ça n'est pas forcément ce qu'il a écrit le meilleur, d'ailleurs je le dis tel que je le pense, mais en 1904, il écrit déjà, en collaboration avec Émile Bessières et Urbain Antoine, une revue en un acte où se mêlent le français et l'occitan. C'est un mélange, comment dire, de fantaisie et d'esprit montmartrois avec l'humour villefranchois. C'est à Paris que Benazet avait rencontré Émile Bessières, qui était né à Montsalès en 1860, selon quelqu'un du pays. Émile Bessières était connu comme auteur de nombreuses chansons célèbres, dont le fameux « Bonsoir, Madame la Lune ». Alors, en fait, cette pièce fut représentée au théâtre en novembre 1904. Il écrira également de courtes pièces en occitan, dont « L'Oubra Betutie », la même année, et donc en tout, il a laissé une douzaine de piécettes en occitan, dont certaines ont été jouées à Villefranche par un groupe culturel, un groupe de comédiens intitulé « Les Troubadours Villefranchois ». Donc le tout va être réuni en 1933, donc peu avant 37, dans un recueil intitulé « Torlitotouf ». Il publiera également trois recueils de poèmes, « Près del cloquier », donc « Près du clocher », Menu dos trobos, menu trouvaille, bon, et Reverdacis, reverdissement en quelque sorte, bon, et qui paraissent en 1905, 1926, et le tout dernier en 1953, donc l'année de sa mort. En fait, il a préparé le recueil, mais il meurt un peu avant la parution. C'est son fils Jean qui achèvera la parution. Mais le principal de son œuvre est constitué d'un recueil de chants, de contes et nouvelles, intitulé « Contes Atuanites » et « L'Ousdite de Pérou » qui parut en 1923. On y retrouve les traditions, les contes traditionnels villefranchois que Benazet avait recueillis et qui ont aujourd'hui disparu de la mémoire villefranchoise, mais aussi des récits et nouvelles à sa façon. En fait, il nous apporte l'humour urbain propre à Villefranche, marqué d'esprit caustique, parfois un tantinet plus qu'un tantinet d'ailleurs anticlérical. Benazet ne rêve pas d'un passé perdu. Il nous parle de son temps. C'est un esprit moderne qui nous parle de ce dont il est le témoin, de la vie autour de lui. Son humour annonce déjà l'humour moderne. D'ailleurs, par cet humour, il influença, on le sait, le jeune collégien de la ville, Francis Carcot, qui habitait à quelques mètres du salon, dans la même rue, donc dans la rue de la République. On notera que ce recueil sera réédité par mes soins, bilingue, avec une traduction de notre ami, le cinéaste Guy Cavagnac, qui était très attaché à la culture occitane. Donc, Patrick Jean-Georges va nous lire un extrait dans une traduction donc, de Guy Cavagnac d'un conte de Benazet.
La maisonnée était au lit. Thérèse, la fermière, venait d'éteindre la chambre de son père, si vieux qu'il retombait en enfance. Antoine, le fermier, restait seul, songeur, au coin du feu. Quand sa femme vint chercher la lampe pour aller se coucher, il lui prit le bras et dit « Thérèse, je sens un malheur. Regarde ça !» Et il sortit de sous sa blouse trois pommes de terre qu'il avait ramassées à la cave en allant chercher le vin du dîner. À chacune d'elles, bien visible, un trou en plein milieu, net et franc, tout rond, et dans lequel on aurait passé le petit doigt jusqu'au ras de l'ongle. « Chaque soir, reprit Antoine, j'en trouve une ou deux trouées. Aujourd'hui, c'était trois. Cela présage quelque chose. » Après l'avoir écouté, Thérèse leva les bras au ciel et fit « Antoine, il faut aller voir la sorcière de Vidaillac. » Antoine et Thérèse étaient le meilleur couple de tout Morlon. Ils s'étaient connus jeunes à Dauquier, où Antoine, né de parents inconnus, avait été loué par l'hôpital de Villefranche qu'il avait élevé. La mère de Thérèse ne voyait pas d'un bon œil l'amitié de sa fille pour cette espèce de Duchifianti. Aussi avait-elle mis à profit les 7 ans de service militaire d'Antoine pour marier sa fille au plus riche et plus vieux propriétaire de la paroisse. Antoine revint du service juste pour l'enterrement du mari et de sa promise, mort d'un mauvais asthme, et Thérèse, plus folle que jamais, n'ayant plus sa mère pour la retenir, se maria avec son ancien amoureux avant le terme de l'année de deuil. Se marier avant la fin du deuil. Ne pas faire dire une messe anniversaire pour le mort, tout ça, Thérèse le regrettait, et les pommes de terre trouées apportaient la preuve que le mort exigeait ses prières. Aussi, la sorcière de Vidaillac, après les avoir écoutées, leur dit « C'est le vieux. Vous ferez dire une messe chaque vendredi tombant à 13, puis vous monterez au calvaire de Villefranche et vous accomplirez le chemin de croix à reculons. » Ils revinrent soulagés d'un grand fardeau. Il faisait jour lorsqu'ils arrivèrent à Morlon. Assoiffé, fatigué, Antoine descendit à la cave pour tirer un peu de vin et se rafraîchir. Il mit l'entonnoir dans la bouteille, tira la bonde, l'entonnoir s'emplit, mais pas la bouteille. Au même moment, un ronflement emplit la cave comme auraient fait les soufflets de l'enfer. Antoine, tout effrayé, laissa l'entonnoir, la bouteille et la bonde au sol et, tout cheveux dressés par la peur, partit en hurlant. Le bouvier, les domestiques, les servantes, le premier berger suivi des pastoureaux, s'attroupèrent en l'entendant crier. L'un prend une fourche, l'autre la faux, d'autres des aiguillons, un fléau, et tous descendent à la cave pour en chasser le diable. Ils n'en virent ni les cornes, ni la queue, ni les yeux brillants de chat fantôme. Antoine, le premier, oublia sa peur quand il vit couler la barrique par le trou du robinet laissé ouvert. Il repoussa tout le monde et, posant la faux dont il était armé, il mit le doigt dans le trou en criant « Thérèse, porte-moi une branche pour faire un bouchon !» Dans le même temps, le petit berger des abreuvoirs, qui suivait les autres avec son fouet de chanvre tressé, entendit remuer quelque chose sous l'escalier. Il tourna la tête effrayée en criant « Il est là !» Tous se baissèrent et virent le vieux père de Thérèse, allongé sur un tas de pommes de terre. Il ronflait tranquillement comme un oiseau, tant il avait bu de vin. Le pauvre vieux avait pris l'habitude de descendre de temps à autre boire à la barrique, et il se faisait un gobelet en bouchant l'entonnoir avec une pomme de terre. Ce jour-là, seul à la maison, ayant bu plus que de coutume, il n'avait pas eu la force de remonter ni l'idée de déboucher l'entonnoir. Maintenant, je ne vous jure pas qu'Antoine et Thérèse firent le chemin de croix à reculons, mais je peux vous garantir qu'il ne fit pas dire les messes.
Merci Patrice d'avoir conservé ce texte dans la republication du recueil. Et tu veux bien sûr ajouter quelque chose
à... Oui, juste un mot. C'est Bénazet qui sera un des grands organisateurs des fêtes villefranchoises de la maintenance du Languedoc du Félibrige le 18 juillet 1937. Il sera président d'honneur du comité d'organisation, présidé parallèlement par Pierre Mirmont, dont je vous ai parlé la dernière fois, tous les deux collaborant de très près. Alors, pour illustrer un peu ce qu'a pu faire Bénazet, en 1937, il publie un poème dont un extrait est ajouté dans le programme des fêtes de 1937, qui est le suivant. « Per persegre lor lima, ai mai d'un quop, deloissat mun mestier. Procuor, sul pas estat, son pesomen de trimo, de pesomen de mi son sonc, mais un odicio m'a solido, que mumen de bu, din lobino, ne fa pas ça d'être de mi sonc. » Alors, je vais le traduire. Pour poursuivre la rime, j'ai plus d'une fois délaissé mon métier. Cependant, je n'ai pas été sans mauvaise passe, on pourrait le traduire de cette manière, des soucis, du mauvais sang. Mais une chose m'a toujours consolidé, qu'un moment de bon dans la vie en fait passer 10 de mauvais. Voilà, donc on retrouve un peu la philosophie du personnage, qui était assez jovial, qui aimait bien rigoler également, ce qui lui a valu quelques problèmes en 1937, nous le verrons, avec Henri Mouly, qui n'avait pas forcément le même sens de l'humour.
C'est lui qui est cité par Francis Carcot dans La Voix Basse.
Oui, il est cité, puisque effectivement, Carcot allait passer un moment dans le salon de Bénazet, et j'ai même eu... je tiens de sources directes de quelqu'un qui a été connu dans Villefranche, Roger de Lestang, qui a été mon voisin, qui est décédé depuis pas mal d'années maintenant, et qui était un haut magistrat, qui a fait une très belle carrière puisqu'il avait fini conseiller à la Cour de cassation. Et à l'époque où il était étudiant en droit, quand il revenait pour les vacances à Villefranche, il adorait aller au salon de Bénazet. Et il me disait, c'était très drôle, parce qu'il racontait des histoires, tout le monde rigolait, applaudissait, et puis si le client qui était assis sur le siège s'impatientait, Bénazet lui mettait le rasoir sous la gorge et lui disait, vous tenez-vous en place, en quoi ça va chauffer. Et tout le monde rigolait. Voilà, alors j'espère que ça vous aura donné l'idée de découvrir Bénazet, éventuellement si vous ne parlez pas l'occitan en français.
Mais c'est vrai que Bénazet nous intéressait, nous, Villefranche 1937, par l'action qu'il a eue, donc l'organisation du Félibrige, et ça fait partie du regroupement qui a eu lieu dans cette année-là à Villefranche, peut-être pour mieux se résister, ou en tout cas faire un gros dos aux menaces qui planaient non seulement sur la France, mais sur le monde. Voilà, je vous remercie tous les trois de votre participation. François Jeannaudet pour cette synthèse de l'exposition. Patrice Le Sueur pour la présentation de Auguste Bénazet. Et puis bien sûr, Patrick Jean-Georges pour ses lectures. Et à la technique, Boubédienne Bridgie, qui nous a parfaitement menés depuis le début. Avec à côté de lui, voilà, un réconfort. Alors, à bientôt, rendez-vous dans un mois pour la prochaine émission. Et je voulais vous dire que je remercie aussi CFM pour nous accueillir pour nos petites conversations.